bien sûr.
Je le savais.
Eureka. La lumière est partout où se porte notre regard. Il a pourtant fallu des siècles de débats théoriques et d'expériences pour en déterminer la nature et la vitesse de propagation. À la fois sculptrice de l'univers et mémoire de celui-ci, la lumière nous renseigne sur l'infiniment grand comme l'infiniment petit et nous confronte à des questions aussi vertigineuses que celles de notre rapport au temps et à l'espace. C'est donc une histoire mêlant recherche fondamentale et développement d'instruments de mesure que nous allons vous raconter aujourd'hui. Et on verra que la compréhension de la lumière a joué un rôle premier dans la naissance de la physique moderne, mais aussi dans notre représentation de l'univers. Et la lumière fut, c'est le programme éblouissant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans Eureka. Et pour nous éclairer sur cette histoire de la lumière, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Serge Haroche. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite au Collège de France, prix Nobel de physique 2012 et auteur notamment chez Odile Jacob de « La lumière révélée ». Nous sommes également en ligne avec David Elbaz. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Vous êtes astrophysicien au CEA, directeur scientifique du département directeur scientifique du département d'astrophysique du CEA, et vous êtes l'auteur chez Odile Jacob également de La plus belle ruse de la lumière. Alors avant de nous pencher sur l'aspect scientifique de la recherche autour de la lumière, on va faire un petit détour du côté du symbole.
Que les sacrifices commencent! Que les grands prêtres du soleil s'approchent du bûcher!
Oh, Pachacamac! Puissant astre du jour! Toi qui as fait le monde, toi le dieu qui l'anime, frappe ce bûcher de tes rayons vengeurs.
Arrête, ô Waskar. Tes invocations ne seront pas entendues par le dieu souverain. Ô sublime Pachacamac, je t'adjure de manifester ta toute puissance. Si tu ne veux pas de ce sacrifice, voile ici, devant tous, ta face étincelante.
Pauvre petit. Il a perdu la raison.
Mais non, votre chapeau est très beau lui aussi.
Mais quel est ce prodige ?
Inutile de s'alarmer, c'est tout simplement une éclipse.
Grâce, étranger, je t'en supplie. Fais que le soleil luise à nouveau et je t'accorderai tout ce que tu me demanderas.
Soit, noble Inca. Ô soleil, puissant astre du jour, je t'en conjure, sois clément. Aie pitié de tes fils et que ta lumière réapparaisse.
Oh, Pachacamac, le soleil lui obéit.
Vite, vite, on les délivre à l'instant.
Voilà, une adaptation du Temple du Soleil, l'album de Tintin qu'avait fait France Culture en 2019. David Elbaz, on a pris cet extrait par goût, mais on aurait pu prendre un hymne à Apollon, on aurait pu prendre des hymnes à des dieux de toutes les cultures différentes. La lumière est toujours centrale. Comment est-ce qu'on explique ça?
Je dirais qu'il y a un paradoxe avec la lumière, c'est que la lumière, c'est le seul lien que nous avons avec le ciel. Hein, nous recevons que de la lumière, et le ciel semble le lieu de l'éternité. Les étoiles sont les mêmes que celles qu'on a vues quand on était enfant, les constellations sont les mêmes qu'on a vues quand on était enfant, et en même temps, c'est le lieu du temps, des cycles. On voit bien ici l'éclipse qui semble menacer le cours du temps. Il faut faire quelque chose. À l'époque, en Chine par exemple, lorsqu'il y avait une éclipse du soleil, il fallait que l'empereur aille à la tour du tambour, les archers devaient tirer sur le monstre Yin qui mangeait le Yang, et il fallait sauver le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que ce paradoxe entre l'éternité et les cycles du temps, présage déjà du rôle que va avoir la lumière dans toute l'histoire de la physique et de son influence sur le temps. Mmh. Et donc, c'est à la fois la tradition, les peurs, le lien avec la puissance du feu, et en même temps, une sorte d'intuition intéressante sur ce lien intime qui existe entre le temps, la lumière, l'éternité, les cycles. Voilà ce que ça me, ce à comme ça me fait penser.
Serge Haroche, si on se penche, on va pas malheureusement faire une anthropologie de la lumière. Ce serait le sujet d'une autre émission tout aussi intéressante. On va se contenter de vos spécialités, qui sont des spécialités quand même scientifiques. Si on remonte un petit peu dans le temps, comme souvent dans Eureka, on va remonter à l'Antiquité et aux premières réflexions scientifiques sur la nature de cette lumière-là. Comment est-ce que les Grecs anciens se représentaient la lumière avant Aristote, on va dire, qui est souvent un petit peu le passage.
Bien, ce qui est assez étrange, c'est qu'ils voyaient la lumière comme émanant de l'œil. En fait, ils imaginaient un petit peu que la vision, c'était un peu l'analogue de la façon dont un aveugle se déplace dans le monde avec son bâton. Il tâte les objets qui se trouvent autour de lui et ça lui donne une information sur le monde extérieur. Et donc, ils avaient cette représentation qu'on retrouve en particulier dans l'Iliade, lorsqu'on dit qu'Agamemnon avait des flashs de lumière qui lui sortaient des yeux. C'est typiquement ce genre d'idée qui était représentée. Et il a fallu beaucoup de temps pour qu'on comprenne qu'en fait, la lumière venait des objets, d'abord des objets lumineux qui étaient réfléchis par d'autres objets qui amenaient la lumière à notre œil, et qu'il fallait voir le trajet de la lumière en sens inverse de ce que voyaient les anciens.
D'une certaine façon, Serge Haroche, c'est comme si, on avait déjà une espèce de proto-théorie corpusculaire, c'est comme si on touchait avec les yeux, comme si la lumière avait déjà une forme de matérialité.
Oui, c'est un petit peu ce qu'il fait avec le lidar ou le radar. En fait, le radar envoie, il y a une source qui se trouve près de l'observateur qui envoie des rayonnements analogues à de la lumière qui sont réfléchis par les obstacles et qui reviennent. Donc c'est un peu une vision comme celle-là, mais ce n'était pas du tout basé sur l'expérience ou sur l'observation. C'était purement une idée que ces gens avaient, que les anciens avaient de la lumière, qui a été très longtemps admise. Également, on pensait à cette époque-là que la lumière était une manifestation instantanée, qu'elle remplissait tout l'espace instantanément, et l'idée que la lumière avait une vitesse finie ne s'est imposée que bien plus tard dans l'histoire de notre histoire.
Ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on parle de lumière, on va le voir dans toute l'histoire de sa compréhension. On a des travaux qui sont réalisés en optique. Vous le disiez, donc cette théorie un petit peu de la lumière émise par l'observateur et une lumière finalement qui va être renvoyée aux yeux par les objets qu'elle rencontre. Ça va être battu en brèche au Moyen-Âge par un savant arabe qui, lui, a une importance capitale. On en avait parlé dans un numéro d'Eureka consacré aux lunettes de vue, Alassane, qu'est-ce qu'il va mettre en évidence, Serge Haroche, concernant la lumière?
Bien, justement, lui, il a émis l'hypothèse que la lumière émanait des sources lumineuses, c'est-à-dire du soleil ou des lampes artificielles, et qu'elle était réfléchie par les objets vers notre œil. Et il a établi un premier modèle de l'œil comme instrument d'optique. C'est lui qui a fait l'analogie entre l'œil et la caméra obscura, la chambre obscure dans laquelle un petit trou dans la chambre permet de se représenter, de reproduire l'image du monde extérieur sur la paroi opposée. Et c'est un peu l'image de l'œil dans lequel la pupille joue le rôle de ce trou avec une lentille ajustée. Et il a fait donc la première théorie de la vision et de l'œil lui-même. Donc ça a été effectivement... Mais il est parti des idées des anciens. C'était des idées qui étaient déjà là à l'époque de Ptolémée ou d'Euclide, à la fin de l'époque grecque. Et comme dans d'autres domaines, ce sont les savants, les scientifiques arabes qui ont transmis les savoirs en améliorant les savoirs antiques jusqu'à l'époque de la Renaissance en Europe. Ça s'est passé pour la lumière, ça s'est également passé pour la transmission du calcul et des mathématiques par l'intermédiaire des Arabes, vers l'Europe au moment du Moyen-Âge et de la Renaissance. C'est une histoire intéressante.
David Elbaz, si on doit faire un premier point d'étape concernant cette compréhension de la lumière et la théorie qui l'entoure, si on est dans ces eaux-là du Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on a compris d'à peu près juste et qu'est-ce qu'on n'a vraiment pas compris?
Je dirais que pour reprendre ce que disait Serge Haroche, ce qui est intéressant, c'est que cette idée de la lumière émise, qui était aussi envisagée par les atomistes à l'Antiquité, présentait un problème. Les atomistes pensaient que les objets rayonnaient leur forme sous la forme d'atomes, les simulacres, et se pose le problème de la nuit. Comment se fait-il qu'on ne voit pas les objets la nuit s'ils rayonnent quelque chose par eux-mêmes? Et donc, dans une vision où ce n'est pas la réflexion de la lumière, par exemple du soleil, mais que ou bien c'est soit ces rayons lumineux qui sont émis par les yeux, soit des simulacres, on est confronté au problème de la nuit. Et ça, cette idée du problème de la nuit va continuer à être débattue pendant toute l'histoire de la science, jusqu'à même bien après le Moyen Âge, puisque faudra attendre même. Ça va même arriver au point de XIXe siècle, et Edgar Poe avec des conséquences inattendues de cette problématique.
Edgar Poe et son fameux poème Eureka, dont on pourra peut-être parler tout à l'heure, qui porte son nom dans le cadre de cette émission et qui a émis justement une espèce d'hypothèse assez visionnaire sur les raisons pour lesquelles la nuit il fait noir. Et on verra que ça a un lien avec la vitesse de déplacement de la lumière. Serge Haroche, si on poursuit cette histoire de compréhension de la lumière, alors c'est quelque chose qu'il faudra toujours garder en tête et qui est très intéressante aussi avec l'histoire de la lumière, c'est qu'à partir de la Renaissance et au-delà, toute l'histoire de la compréhension de la lumière va être liée à des développements d'instruments de mesure, à des développements techniques et finalement à un aller-retour entre mécanique et physique. Et tout ça finalement va s'imbriquer et va nourrir les réflexions sur la lumière.
Effectivement, dès le 17, en fait, la science moderne, la science de la lumière et la science moderne en général commence à la fin du 16e, début du 17e siècle avec Galilée, qui a été à la fois un explorateur de l'univers en utilisant pour la première fois une lunette astronomique pour observer le ciel. Donc, ça a un rapport avec la lumière, évidemment. Et il a également été à l'origine de l'invention des premières horloges précises qui permettent de mesurer le temps avec une précision qui permet de faire des observations pertinentes en ce qui concerne la lumière, et en particulier de mesurer la vitesse de la lumière. Et donc, dès le début, l'optique et la mécanique ont évolué ensemble. Je vais parler de Galilée, ça s'est manifesté de façon également très nette avec Newton, qui à la fois a fait des contributions essentielles à la mécanique et à l'optique, et ça s'est terminé, et ça a continué jusqu'au début du XXe siècle, avec la théorie de la relativité et la physique quantique qui sont nées d'observations impossibles à expliquer classiquement, d'observations liées à des phénomènes lumineux. Et on retrouve donc dans toute cette histoire le fait que la science de la lumière, l'optique et la science de la mécanique, de la chute des corps par exemple, ont été liées et ont eu des relations très étroites les unes avec les autres. On le verra de multiples étapes de cette histoire, du 17e au 20e siècle.
Vous avez fait à peu près le plan parfait de l'émission que je souhaite suivre, donc on va essayer de s'y tenir. Si on en revient justement à cette science moderne, on a des grands noms comme Descartes, par exemple, qui se posent des questions autour de la lumière. Descartes n'est pas le seul, il y a aussi le mathématicien hollandais Snell. Alors du coup, quelles sont les questions qui préoccupent vraiment les savants du tournant du 16e et du 17e siècle autour de la lumière, Serge Haroche?
Un des problèmes fondamentaux, ça a été la vitesse de la lumière. Est-ce qu'elle se propage avec une vitesse infinie, c'est-à-dire est-ce qu'elle remplit instantanément tout l'espace, ou est-ce qu'elle a une vitesse finie de propagation? Et si oui, quelle est cette vitesse? Comment est-ce qu'on peut la mesurer? Et les différentes personnes que vous avez citées, les différents scientifiques que vous avez cités, avaient des opinions divergentes à ce sujet. Descartes pensait que la lumière était une manifestation instantanée et que donc elle se propageait à une vitesse infinie. Newton et Huygens, qui étaient l'autre grand scientifique hollandais du XVIIe siècle, pensaient que la lumière avait une vitesse finie, mais ils divergeaient sur un point essentiel. D'après Huygens, la lumière devait se propager plus lentement dans un milieu matériel, dans de l'eau ou dans du verre que dans l'air, alors que la théorie de Newton le poussait à dire le contraire, que la lumière allait plus vite dans un milieu matériel que dans l'eau. Et donc cette polémique, cette discussion sur la vitesse de la lumière a eu des conséquences extrêmement profondes parce qu'elle était liée à une question fondamentale, c'est quelle est la nature de la lumière. Si la lumière est formée de particules, elle doit se propager plus vite lorsqu'elle rentre dans un milieu matériel, alors que si la lumière est une onde, elle se propageait plus lentement. C'est de cette façon-là qu'on pouvait expliquer les lois de Descartes et de Snell dont vous avez parlé. Donc ces lois, tout le monde les admettait parce qu'elles résultaient d'observations directes de la réflexion de la lumière ou de la réfraction de la lumière dans un milieu matériel. Mais l'interprétation était complètement divergente suivant qu'on choisissait le modèle ondulatoire ou le modèle corpusculaire. Je voulais simplement dire qu'il y a une autre un autre personnage très important que vous n'avez pas cité au XVIIe siècle, qui est Fermat, le mathématicien qui a été à l'origine du fameux théorème de Fermat, qui n'a été, donc en mathématiques, qui n'a été démontré qu'au XXe siècle. Mais Fermat était également un physicien, et il a émis une hypothèse fondamentale sur la lumière, disant que la lumière prend le chemin qui correspond au temps minimum de propagation entre un point et un autre. Cette idée de principe de moindre temps de propagation est un grand principe de la physique qui s'est étendu ensuite à la mécanique sous une autre forme. Et pour comprendre ce principe, il fallait admettre que la lumière allait plus lentement dans un milieu matériel que dans l'air. Donc Fermat donnait raison à Huygens contre Newton avant même Newton. Donc c'est vraiment, je pense qu'il faut signaler ça, parce que Fermat était un personnage qui a joué un rôle extrêmement important dans cette histoire et qui a été le premier à fournir une théorie de la propagation de la lumière qui a survécu jusqu'à maintenant.
David Elbaz, vous êtes astrophysicien. Est-ce que cette évolution de la compréhension de la nature de la lumière, de sa vitesse de propagation, a eu des implications directes sur l'astronomie, sur l'interprétation qu'on faisait du mouvement des astres, de leur nature, etc.?
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on observe l'univers, souvent les gens pensent que on essaye d'explorer d'autres mondes lointains pour comprendre ce qui se passe là-bas, alors qu'en réalité, on utilise l'univers comme un laboratoire. Ça nous permet de déployer l'espace et le temps et de voir des phénomènes qui peuvent être beaucoup trop subtils pour être vus sur Terre. C'est d'ailleurs comme ça que l'astronome danois Ole Rømer a pu pour la première fois mesurer, justement faire une des premières mesures de la vitesse de la lumière en suivant l'orbite du satellite de Jupiter qui s'appelle Io, qui est celui qui est le plus proche de Jupiter, qui orbite en 42 heures et qui a vu qu'il y avait, selon la distance qu'il y avait entre Jupiter et la Terre, puisque la Terre bouge par rapport à Jupiter au cours du temps, il y avait un décalage dans le temps, et ça lui a permis d'initier cette mesure. Et donc c'est l'univers sert de laboratoire, et cette idée d'onde et de corpuscule est fondamentale en astronomie, parce que c'est tous les mécanismes qu'on appelle d'interférence qui sont liés à la nature ondulatoire de la lumière vont provoquer une forme de destruction de la lumière lorsque vous avez une bosse et un creux qui se rencontrent, et il va y avoir des franges d'interférence où ce qu'on voit dans nos télescopes, ce qu'on appelle des taches de diffraction. Et ces taches de diffraction, c'est vraiment l'un des soucis principaux de l'observation de l'univers. Donc on est très vite confronté à la nature ondulatoire de la lumière. Et un point très important, c'est le fait que la lumière, c'est ce que va comprendre en 1800 Young, avec une expérience qui va montrer que la nature...
Alors, je vous interromps peut-être un tout petit peu, David, parce que là, vous prenez un tout petit peu d'avance. On va revenir dans un instant quand même à cette dualité onde-corpuscule qui n'est pas encore fusionnée dans la compréhension de la lumière au XVIIe siècle. Et on va en revenir justement à Huygens et à Newton et à la tension, finalement, au débat physique qui l'animait.
La distance s'est réduite à vue d'œil. Dans moins d'une minute, Yop Solo est à nous.
Qu'est-ce qui se passe? Mais où il est passé?
Qu'est-ce qui se passe, Seigneur?
Trouvez-les, rattrapez-les!
À vos ordres! Préparez-vous à passer en vitesse lumière!
Non, la vitesse lumière, c'est trop lent!
La vitesse lumière, trop lent?
Oui, nous allons passer tout de suite à la vitesse démesurée!
À la vitesse démesurée?
À mon commandement, vitesse démesurée! Feu!
France Culture, Eureka. Antoine Beauchamp.
On revient en vitesse normale et on se recoiffe. Serge Haroche, on peut parler peut-être justement de cette dualité onde-corpuscule qui n'est pas encore fusionnée comme le fera plus tard Einstein en ce qui concerne la lumière. On va revenir à ces noms, Huygens, Newton, qui ont débattu, en tout cas qui ont été opposés en ce qui concerne la conception de la lumière. En 1676, Huygens publie son traité de la lumière. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce traité concernant la nature de la lumière, une nature qu'il considère comme ondulatoire, sur la base de quelle expérience?
Sur la base, il interprète d'abord, il fait une analogie entre la lumière et l'acoustique, les ondes lumineuses et les ondes sonores. Il dit que ces ondes se propagent, alors que les ondes sonores se propagent dans l'air, la lumière se propage dans un milieu hypothétique qu'il appelle l'éther, et il présente comme évidence de ça le fait qu'on peut comprendre à partir de cette image comment la lumière est réfléchie sur un miroir ou comment la lumière est réfractée lorsqu'elle entre. Elle passe de l'air dans un milieu matériel, elle change de direction, c'est ce qu'on appelle la réfraction, elle est réfléchie plus proche de la normale à la surface que dans le milieu initial, et il montre par des images géométriques très simples que ceci s'explique parfaitement si on admet que la lumière est formée d'ondes issues de la source qui se propagent vers la personne qui va l'observer, et que ces ondes vont se trouver donc réfractées lorsqu'elles passent d'un milieu à un autre. Et pour faire cela, il fait l'hypothèse des ondes secondaires. Il admet que sur un front d'onde, lorsqu'une onde atteint un certain point de l'espace, on peut sur ce point imaginer, sur cette surface, imaginer des ondes secondaires qui vont rayonner à partir de là vers l'avant. Et donc c'est cette image des ondes qui se propagent progressivement d'un point à un autre qui lui fait penser à cette analogie avec l'acoustique. Et pour parler de Newton ensuite, ce qui était très paradoxal, c'est que Newton s'est intéressé au phénomène de la couleur. Il a montré qu'il y avait des interférences, que lorsque la lumière passait d'un milieu à un autre, les différentes longueurs d'onde étaient réfractées sous des angles différents, et qu'on pouvait à partir de là observer des images d'interférences dont a parlé David Elbaz tout à l'heure, et ces interférences sont colorées. On les voit par exemple lorsque vous regardez la réflexion d'une petite tache d'huile, vous voyez très facilement apparaître des couleurs d'interférence. Ces interférences ne peuvent s'expliquer que par l'aspect ondulatoire. Les ondes dont parlait David Elbaz vont se renforcer ou s'annuler à des endroits différents suivant la couleur, parce que la longueur d'onde, la distance qui sépare les différentes crêtes de la lumière dépend de leur couleur. Et ça, Newton était incapable de l'expliquer vraiment. Il a fait des observations directes très précises, et ce n'est qu'au 19e siècle que les expériences de Young, dont David Elbaz a rapidement parlé tout à l'heure, ont permis de confirmer cette idée de l'aspect ondulatoire de la propagation de la lumière. Donc, en fait,
ce qu'on peut dire quand même, Serge Haroche, et qui est très intéressant dans cette histoire de la lumière, c'est que à partir de cette théorie cette approche proposée par Huygens d'une lumière comme un corps ondulatoire, et cette approche de Newton qui lui voit plutôt la lumière comme un corpuscule finalement, là, il va y avoir des débats physiques qui vont durer pendant 2-3 siècles.
Oui, et je pense qu'on peut dire historiquement et scientifiquement que c'est Huygens qui a gagné, qui avait raison. Le retour à l'interprétation corpusculaire faite par Einstein au début du XXe siècle ne va pas revenir sur le fait que la lumière est une onde. Il va introduire des concepts quantiques qui vont permettre de dire que cette onde est formée de grains discrets, mais le fait, par exemple, que la lumière se propage plus lentement dans un milieu matériel que dans l'air, c'est quelque chose que Huygens avait compris et qui est vrai, et qui reste vrai malgré la physique quantique. Donc, dans ce débat, dans cette polémique entre Huygens et Newton, on peut dire, je pense, de façon honnête et équitable, que c'est Huygens qui avait raison. On en reparlera peut-être lorsqu'on parlera de physique quantique.
Bien sûr, bien sûr. David Elbaz sur ce débat-là, et puis sur aussi cette évolution des sciences toujours instrumentales autour de la dissection de la lumière en tant que matière, on va le dire. Est-ce que il y a des expériences particulièrement marquantes qui vont nous mettre face au cœur de la lumière? Par exemple, on parle du prisme de Newton qui est un petit peu l'image archétypale de où on voit un petit peu les différents spectres de la lumière, ces différentes couleurs. Ça, peut-être qu'on peut déjà expliquer ce que c'est que ces spectres-là.
Oui, ça c'est quelque chose de vraiment fondamental, parce que l'idée que les couleurs de la lumière donc viennent de ces différentes longueurs d'onde, c'est vraiment fondamental dans la compréhension de la lumière. Et il s'est passé quelque chose le mardi 11 février 1800 précisément, lorsque William Herschel reprend l'expérience de Newton du prisme qui va décomposer la lumière blanche dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Newton a compris que la lumière blanche était la composition de toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel, mais ce que va faire Herschel, c'est qu'il va se poser une question toute bête, c'est de savoir quelle est la température de la couleur rouge par rapport à la couleur bleue. Et il va mettre des petits thermomètres en face de différentes couleurs, et pour calibrer sa mesure, il va en mettre un à côté du rouge pour voir la température ambiante dans la pièce, et il va s'apercevoir que la température va monter plus haut. Et là, il va découvrir une forme de lumière invisible, et donc une couleur de la lumière, qu'on appellera plus tard l'infrarouge, qui va être le premier pas dans l'exploration de la lumière invisible. Et en 1895, donc presque un siècle plus tard, Wilhelm Röntgen découvrira les rayons X de manière complètement par hasard. On dit d'ailleurs qu'il y a eu un rayonnement complètement dans un angle que quelqu'un de normal n'aurait pas vu, mais à part, certains disent que du fait qu'il était daltonien, c'est pour ça qu'il voyait mieux de côté et qu'il a fait cette découverte. Et donc là, on est rentré dans un monde qui est vraiment le monde pour nous en astrophysique fondamental. Moi, je suis juste un observateur, un collectionneur de particules de lumière dans toute cette frange, dans tous ces domaines de longueur d'onde. Je suis très sensible à l'invisible parce que j'ai beaucoup travaillé sur un satellite qui s'appelle Herschel et qui reprenait justement l'idée de découvrir un peu des facettes invisibles de l'univers en regardant dans ce domaine de longueur d'onde qu'est l'infrarouge. Et qui est d'ailleurs celui du télescope spatial James Webb qui vient d'être lancé. Et ça a commencé dès le mardi 11 février 1800. On est rentré dans un autre monde qui nous a permis de découvrir des facettes de l'univers totalement inconnues avant.
Grâce à la spectroscopie, donc vous parliez, David Elbaz, à l'instant de l'infrarouge. On découvrira plus tard l'ultraviolet. Est-ce qu'il y a une foultitude de spectres de lumière invisible ou bien est-ce qu'on a quand même fait le tour?
Alors, ce qui effectivement, on est entré dans une... Ah, pardon, allez-y.
Alors, Serge Haroche.
Oui, non, je voulais dire qu'en fait, cette lumière invisible joue un rôle essentiel en astronomie, en astrophysique, bien sûr, mais dans la vie quotidienne. Là, je vous parle par téléphone et ce téléphone fonctionne sur la réception de micro-ondes qui sont une forme de lumière invisible. C'est une lumière dont la longueur d'onde est beaucoup plus grande que celle de la lumière que l'on voit, mais ce sont des ondes électromagnétiques de même nature que la lumière. Donc, ce spectre extrêmement étendu de rayonnement au-delà du spectre visible dans le domaine de l'infrarouge et des micro-ondes et dans le domaine de l'ultraviolet, des rayons X et des rayons gamma, ce sont des spectres qui sont exploités pour la recherche fondamentale, en astrophysique par exemple, mais également dans les technologies modernes que nous utilisons tous les jours. C'est absolument essentiel. Donc, lorsqu'on parle de lumière, on parle aussi bien de la lumière visible que de la lumière invisible, et elle joue un rôle fondamental dans toute notre vie quotidienne. Elle a vraiment révolutionné notre vie dans tous les domaines.
C'est vrai que c'est toujours assez amusant et joli de se rendre compte que votre voix est portée par la lumière. Serge Haroche, David Elbaz, je vous repose du coup la même question. Et sur cette gamme, on va dire, spectrale de la lumière, on a fait le tour, on a couvert tous les champs et on a découvert toutes les lumières invisibles?
Alors, ce qu'on a fait en astronomie, effectivement, c'est qu'on a tenté d'ouvrir à chaque fois une nouvelle fenêtre pour observer l'univers dans ce domaine de l'invisible. Et je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est rentré dans l'ère où on a pratiquement exploré l'ensemble du spectre électromagnétique, c'est-à-dire qu'on a ouvert toutes les fenêtres sur l'univers. On a regardé dans l'ultraviolet, dans les rayons X, dans le domaine radio, submillimétrique, infrarouge. Et maintenant, on passe à une nouvelle phase qui rend l'astronomie encore plus compliquée, où on va soit utiliser d'autres sondes, ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles par exemple, soit devoir utiliser cette lumière, qu'elle soit visible ou invisible, avec un degré de subtilité supérieur à ce qu'on avait fait avant. Et c'est ce qui rend l'astronomie beaucoup plus complexe et qui fait un défi pour nous autres astrophysiciens de convaincre les agences de financement de l'astronomie que ça va coûter plus cher. Ça va coûter plus cher parce que maintenant, il suffit plus d'ouvrir un œil pour voir l'infrarouge. Il va falloir, c'est ce qui s'est passé avec le James Webb, 10 milliards, bon, et ça va coûter plus cher.
Serge Haroche, vous avez évoqué tous les deux... Allez-y.
Oui, non, je voulais dire que effectivement, je voulais faire allusion à cette nouvelle fenêtre qui s'est ouverte sur l'univers avec la détection il y a quelques années des premières ondes gravitationnelles, des ondes qui sont produites par l'effondrement, la coalescence de deux trous noirs dans l'univers ou la coalescence de deux étoiles à neutrons. Et ce phénomène déforme l'espace-temps et provoque une espèce d'onde de déformation de l'espace-temps qui a été détectée par des ondes, des antennes gravitationnelles qui sont situées aux États-Unis et maintenant en Italie également, Et ces antennes gravitationnelles, elles fonctionnent grâce à la lumière.
Grâce
c'est
à
la lumière
lasers.
Qui circule entre des miroirs, des lumières de laser extrêmement stables circulant entre des miroirs séparés de plusieurs kilomètres, et une variation de distance entre ces miroirs infinitésimale, beaucoup plus petite que la taille d'un noyau atomique, a été détectée. Et ça, c'est grâce aux propriétés extraordinaires de la lumière. Mmh. Donc effectivement, je pense que c'est très important de comprendre que maintenant, il faut utiliser la lumière de façon de plus en plus sophistiquée, utiliser les propriétés d'interférence ou de stabilité en phase et en fréquence de la lumière pour acquérir des connaissances supplémentaires quantitatives sur l'histoire de l'univers.
Oui, la lumière n'est plus domaine, la lumière n'est plus seulement finalement l'objet d'observation, oui. Ça devient un outil d'observation.
Oui, c'est et un autre domaine qui est fascinant et qui est également en rapport avec l'astronomie, c'est la découverte des exoplanètes qui est basée maintenant de plus en plus sur des méthodes extrêmement sophistiquées permettant de détecter des modifications de vitesse des étoiles de l'ordre de quelques centimètres par seconde, et ça grâce à de l'interférométrie laser de très très haute précision. Mmh. Donc on rentre dans un domaine complètement différent au point de vue technologique, et je suis d'accord avec David Elbaz que ça coûte beaucoup d'argent, c'est très cher, mais ça nous permet d'acquérir des connaissances extraordinaires sur l'univers. Mmh. Et je pense que c'est une des richesses de la civilisation humaine, c'est que elles cherchent à acquérir des connaissances, même si elles ne vont pas être directement utiles tout de suite. Mmh. Et on peut dire également que ces améliorations technologiques extraordinaires, elles finissent par avoir des applications dans la vie quotidienne.
Bien sûr, avec les lasers.
GPS, par exemple. Oui. Et il y a toujours cette espèce de symbiose entre la recherche faite uniquement pour acquérir des connaissances nouvelles et la recherche appliquée qui nous donne des instruments de plus en plus précis dans notre, mmh. pour améliorer nos conditions de vie.
Vous avez évoqué tous les deux, David Elbaz et Serge Haroche, une idée, un concept, l'électromagnétisme. Alors, peut-être qu'on peut faire un petit rappel, David Elbaz, sur ce qu'est l'électromagnétisme, qui a été théorisé au 19e siècle par Maxwell. Qu'est-ce qu'il a mis au point concernant c'est la relation entre champ électrique et champ magnétique, et quel lien ça a avec la lumière?
Bah, c'est ça, il y a quelque chose de presque magique hein, dans ce qui a été fait par Maxwell, qui a pris en compte bien sûr les travaux de ses prédécesseurs, c'est vers 1865. C'est la notion, comme vous l'avez dit, de champ de force. C'est quelque chose qui paraît pas complètement évident. Cette idée que, par exemple, lorsque imaginez un univers complètement vide, vous mettez un électron, juste un électron dans cet univers, à partir de là, l'univers est entièrement rempli. Il est rempli d'un champ de force. Et ça, même au moment où je vous le dis, là, pour moi, c'est dingue. Maintenant, faites déplacer cet électron, il va engendrer un champ magnétique. Et les propriétés des charges électriques, lorsqu'elles se déplacent ou lorsqu'elles sont immobiles, qui vont engendrer ce qu'on appelle de l'électromagnétisme, répondent à des lois mathématiques qui ont été formulées par Maxwell, d'abord avec un certain nombre d'équations, une vingtaine, puis progressivement moins d'équations, mais va aboutir à quelque chose, à certaines conséquences qu'on n'avait pas prévues. En particulier le fait que ce champ de force, à partir du moment où, imaginons que je mette l'électron dans cet espace, ce champ de force va prendre un peu de temps à se déployer dans l'espace. Et donc, il va y avoir une certaine propagation, une vitesse de propagation du champ de force. Or, par une étrange coïncidence, cette vitesse de propagation se trouve être celle qu'on a mesurée pour la lumière. Et donc, la lumière se retrouve jouer un rôle central dans l'histoire où elle devient une onde électromagnétique. Et là, une nouvelle facette de ce héros de l'histoire de la science, qui est la lumière, apparaît grâce et de façon imprévue à cette description de l'électromagnétisme, voilà, fortuite par les équations de Maxwell. C'est un des points. Bien sûr, il y en a un deuxième dont on parlera, c'est la notion de corps noir, qui est un autre point magique. Mmh.
Bah, restez avec nous. Puisque vous évoquez à l'instant, David Elbaz, la vitesse de la lumière, on va en arriver dans un instant à son calcul très très épineux, mais aussi au vertige que le résultat auquel on est parvenu nous a fait avoir. There's a light in my life shining over me. There's a light in my life shining over me. Yeah. Let your blessings from above fill me with thy precious love. There's a light in my life shining over me.
strange things happen to me. Then again I feel my friends are gone, yeah. But if I put my trust in Jesus, my burdens will light up. Don't you see there's a light in my life shining over me? Lord, walk with me, talk with me. Please stay close by my side. Be my shelter, be my comfort, be my guide, yeah. I was blind, but now I see. Jesus came and he rescued me. There's a light in my life shining over me. There's a light in my life shining over me. There's a light.
There's a Light par Shirley Hanley dans Eureka sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de la découverte et de la compréhension de la lumière. Nous en parlons avec Serge Haroche, professeur émérite au Collège de France, prix Nobel de physique 2012, auteur chez Odile Jacob de La Lumière Révélée. Nous sommes également en ligne avec David Elbaz, astrophysicien au CEA, directeur scientifique du département d'astrophysique et auteur chez Odile Jacob de La Plus Belle Ruse de La Lumière. Serge Haroche, on évoquait justement avant l'interlude musical la question épineuse de la vitesse de la lumière. Alors, si on reste un petit peu au 19e siècle, donc la théorie ondulatoire de Huygens a pris un peu le pas sur la théorie corpusculaire de Newton. Quelle image, quelle idée on se fait de la vitesse de la lumière à cette époque-là et quelles grandes questions ça soulève ?
Bien, le problème de l'interprétation de la lumière comme une onde, c'est de savoir, c'est une onde de quoi ? Qu'est-ce qui se propage ? Quelle est la nature de l'onde ? Dans le cas des ondes acoustiques, on sait que ce sont des contractions, des dilatations de l'air, et donc que le milieu dans lequel le son se propage, c'est un milieu bien connu. Mais quel était le milieu dans lequel se propageait l'onde électromagnétique en question, et la lumière en général ? Et les physiciens faisaient l'hypothèse qu'il y avait un milieu, ils ont appelé l'éther, et qu'on a essayé de déterminer les propriétés de cet éther. C'était une propriété très, très paradoxale, parce que la lumière devait pouvoir s'y propager librement. C'est un milieu qui devait pénétrer tous les corps transparents, par exemple un morceau de verre ou de l'eau. Et donc c'était un milieu qui avait des propriétés extrêmement difficiles à concevoir. Des tas de modèles ont été établis pour essayer de le comprendre. Et on s'est posé une question, si la lumière se propage dans l'éther et à une certaine vitesse, quelle sera la vitesse vue par un observateur qui se déplace lui-même dans l'éther ? Mmh. Par exemple, la Terre elle-même est entraînée autour du Soleil à une certaine vitesse. Est-ce que le fait que la lumière se propage dans l'éther fait qu'on la verra à une vitesse différente suivant qu'elle arrive dans le même sens que la propagation de la Terre ou dans le sens opposé ? Et une expérience fondamentale a été faite dans ce domaine par un physicien américain, Michelson, qui a montré qu'il n'y avait pas de changement de la vitesse en fonction de sa direction de propagation par rapport à l'éther. Mmh. La lumière avait toujours la même vitesse qu'on la mesure dans la direction de propagation de la Terre ou dans la direction opposée ou dans la direction orthogonale. Et ça constituait un puzzle, une question extrêmement épineuse, extrêmement difficile à comprendre par les physiciens et par les scientifiques en général à la fin du 19e siècle. Ça a été le point de départ de la théorie de la relativité. Mmh. David, vraiment, cette question sur la vitesse de lumière a été essentielle. Je voudrais reprendre ce qu'a dit David Elbaz tout à l'heure sur le fait qu'on s'est rendu compte que la propagation des ondes électromagnétiques, le fait que la variation d'un champ électrique entraîne celle d'un champ magnétique et que ça se propage à une certaine vitesse, ça a été effectivement l'eureka de Maxwell. Et ça, il a, dans le traité sur l'électromagnétisme, il fait la remarque, il dit mes équations donnent pour ces ondes électromagnétiques telle vitesse. Or, quelques années auparavant, Foucault, un physicien français, avait mesuré la vitesse de la lumière et il l'avait trouvée égale à quelques millièmes près à la vitesse que Maxwell avait prédites par ses équations. Et Maxwell termine en disant « ça ne peut pas être une coïncidence, la lumière est donc une onde électromagnétique ». Et j'insiste là-dessus pour dire que ce progrès de la science a été dû au fait que les instruments de mesure à l'époque de Foucault avaient étaient devenus assez précis pour qu'on puisse mesurer la vitesse de la lumière avec 5 ou 6 chiffres significatifs qui coïncidaient exactement avec les résultats théorique de Maxwell.
Peut-être qu'on peut décrire d'ailleurs, Serge Haroche, cet instrument qui a permis à Léon Foucault d'établir avec une proximité assez bluffante la vitesse de la lumière.
C'est une expérience qui est très simple dans son principe. Il avait une source lumineuse qu'il pouvait hacher, c'est-à-dire envoyer des impulsions lumineuses et qui partaient de sa source pour aller vers un miroir et elles revenaient vers la source avec un certain délai qui était lié au temps de propagation et il mesurait ce délai en faisant tourner, par exemple, le miroir, en faisant tourner une roue dentée qui faisait que lorsque la lumière revenait vers l'observateur, elle était obturée si le temps de propagation correspondait au passage d'un trou de la roue dentée à la dent suivante. En fait, ces expériences ont été faites par 2 physiciens français qui se sont succédés au milieu des années 1850, Fizeau et Foucault, qui étaient des amis au départ et qui se sont opposés sur cette expérience parce qu'ils sont rentrés dans une compétition dont je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est un autre aspect de la science qui est intéressant, le fait que la compétition peut parfois devenir extrêmement âpre, et Foucault a pris le pas sur Fizeau dans des conditions un peu particulières qui fait que la grande amitié entre ces 2 physiciens s'est terminée là-dessus. Néanmoins, la précision de cette expérience de Foucault a permis justement à Maxwell de faire ce bond qui a identifié la lumière a une onde électromagnétique, et comme cette onde pouvait avoir n'importe quelle fréquence, ça portait déjà en germe les rayonnements infrarouges et ultraviolets, et les rayons X dont on a parlé précédemment. En fait, Maxwell a ouvert cette fenêtre vers l'univers par sa théorie électromagnétique, et il a ouvert également vers la relativité en posant ce problème du « quelle est la nature de l'éther ?» ces propriétés paradoxales qui font que la vitesse de la lumière reste la même, qu'il n'y a pas de vent d'éther comme on le pensait auparavant, ça va conduire Einstein à bouleverser postuler, complètement nos conceptions de l'espace et du temps.
Alors si on y arrive justement à ce tournant du XXe siècle et au renversement de la table par Einstein, alors avant de parler d'Einstein, on peut peut-être évoquer David Elbaz, Max Planck, qui lui a postulé un élément important qui va permettre à Einstein aussi d'alimenter sa théorie. Expliquez-nous un petit peu qui était Max Planck et ce qu'il a mis en place justement concernant les quantas d'énergie, etc. Ça, quelle importance ça va avoir aussi dans l'histoire de la compréhension de la lumière?
Oui, et donc il y a 2 choses. D'une part, je voudrais revenir sur cette idée de, et je vais arriver tout de suite à Max Planck, mais cette idée d'une étrange coïncidence avec la vitesse de la lumière dans la propagation des ondes électromagnétiques, c'est quelque chose de fondamental dans toute l'histoire des sciences et qui montre le génie des grands scientifiques, c'est que il peut nous arriver d'être confronté à une coïncidence et puis de se dire finalement ça n'a pas vraiment d'importance. Et souvent, les grandes découvertes scientifiques ont été faites quand les scientifiques se sont dit non, là il y a quelque chose qui cloche, ce petit détail là, le fait que les 2 choses, ça me dit quelque chose, même si je ne sais pas encore le nommer. Et ce moment là où on ne sait pas encore nommer la conséquence d'une découverte d'une coïncidence, il est fondamental. C'est ce moment où on est dans la question. Einstein va travailler avec l'étrange coïncidence qu'il y a entre la gravité et l'accélération. Copernic va découvrir une étrange coïncidence du fait que les planètes ont l'air de tourner à la même vitesse sur les petits cercles qui tournent autour des grands cercles et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est un point important. Alors pour ce qui est de Max Planck, il y a un deuxième point qui a été mesuré, sur cette propriété de l'électromagnétisme, c'est le fait que si on suppose une source qu'on appelle un corps noir qui absorbe l'énergie électromagnétique de manière absolue, elle va rayonner de la lumière avec certaines propriétés, et en particulier on aboutissait à une conséquence qui était que la quantité de lumière qui devait être rayonnée selon la compréhension qu'on avait de la lumière à l'époque aboutissait à une quantité d'énergie infinie. Et ça a été un gros problème, bien sûr, auquel les physiciens ont été confrontés, et qui va conduire Max Planck va proposer une réponse, mais ce qui est intéressant, c'est que Einstein va avoir en mars 1905 va écrire un article qui est pour moi tout ce qu'a fait Einstein est extraordinaire, mais là il y a quelque chose qui est peut-être dont on n'entend pas beaucoup parler, c'est le fait qu'il va se poser une question peut paraître un peu étrange, c'est quelle est l'entropie d'un rayonnement. Alors l'entropie, vous allez me dire, c'est un terme complexe. Pourquoi parle-t-on de ça ? C'est l'entropie, c'est une mesure de ce qui va permettre, par exemple, de définir la flèche du temps, ce qui est le sens. Et pendant longtemps, on appliquait l'entropie à la matière, et là, il va l'appliquer, le calcul d'entropie, à la lumière. Il va s'interroger dessus, et ça va le conduire à se rendre compte que la lumière peut s'égrener en particules qu'on appellera plus tard des photons. Mmh. Et donc c'est ça qui va lui permettre de résoudre le paradoxe de l'énergie infinie du corps noir, c'est de supposer qu'il y a des grains de lumière de la même manière qu'il y a des grains de matière. Et ça va avoir des conséquences dont on parlera plus tard qui vont être fondamentales.
Serge Haroche, parlons de cet article-là justement paru en 1905 et écrit par Einstein, un point de vue heuristique concernant la production et la transformation de la lumière. En quoi est-ce que c'est une telle révolution pour l'histoire de la lumière ?
C'est une révolution parce que ça introduit les quantas en physique en général. Ça introduit le fait que des phénomènes de physique que l'on considère toujours comme étant tous continus pouvaient avoir un aspect fondamental discontinu. Vous avez parlé de Planck tout à l'heure. En fait, Planck avait 5 ans avant Einstein, avait montré que si on admettait que les échanges d'énergie entre la matière et la lumière se produisaient sous forme de grains, sous forme de quantités indivisibles qu'on appelle des quantas, eh bien, on pouvait résoudre le paradoxe que David Elbaz a cité, le fait que la lumière rayonnée par un corps noir était infinie. On pouvait supprimer cette catastrophe qu'on appelait la catastrophe ultraviolette en faisant l'hypothèse mathématique que les échanges s'effectuaient par sauts discrets. Planck présentait ça un peu comme une espèce d'astuce théorique qui permettait d'éviter la catastrophe, mais il ne lui a pas donné l'interprétation physique profonde. Mmh. C'est Einstein, dans le papier de 1905, qui a donner à ces quantas leur existence réelle en disant que c'était pas simplement lors des échanges d'énergie, c'était vraiment la lumière elle-même qui était qui se propageait sous forme de grains et il a montré que ça permettait d'expliquer en particulier l'effet photoélectrique qui venait d'être découvert expérimentalement mais qui avait des propriétés qui étaient incompréhensibles classiquement. Et donc il a fait dans ce papier en quelque sorte d'une pierre deux coups, il a résolu le problème de la catastrophe de la divergence de l'énergie rayonnée par les corps chauffés et le problème de l'interprétation de l'effet photoélectrique. Et il a remis donc cet aspect corpusculaire en jeu dans la lumière. Il a en quelque sorte réconcilié Huygens et Newton, oui. Mais d'une façon complètement paradoxale, parce que pour les réconcilier, il a fallu qu'ils mettent à bas toute l'image classique que l'on avait du monde. Parce que lorsqu'on ouvre la boîte de Pandore des quantas, on introduit le fait que la physique n'est plus déterministe, que les moments où se produisent les émissions et les absorptions de quantas ne peuvent pas être prédits de façon précise, mais s'effectuent suivant des lois statistiques, que la physique quantique n'était plus la physique déterministe que les astronomes du 18e et du 19e siècle avaient imaginé. Laplace avait dit à la fin du 18e siècle, si on lui donnait toutes les conditions initiales du monde, il n'y aurait plus besoin de prédire le futur, on pourrait calculer tout ce qui allait se passer. Mmh. La physique quantique rend tout cela impossible, et tout cela à partir de la découverte des quantas. Donc ça a été vraiment une révolution non seulement physique, mais une révolution philosophique, métaphysique, en quelque sorte, sur la conception du monde.
Et tout ça grâce à la lumière, et Einstein, comme vous le disiez, Serge Haroche fait un peu d'une pierre deux coups en imposant le concept, l'idée du photon, et par ailleurs l'aspect duel de la lumière qui est à la fois une onde et une particule, mais il s'arrête pas là, il va aussi complètement balayer l'idée de l'éther comme référentiel absolu, et va travailler sur la vitesse de la lumière. Qu'est-ce qu'il va montrer, Serge Haroche?
Et il va montrer que la vitesse de la lumière, en fait, est une constante de la nature et qu'elle est la même pour tout le monde. Tous les observateurs voient la lumière se propager à la même vitesse et que ceci pose un problème essentiel dans la conception du monde, parce que si la vitesse de la lumière ne peut être ajoutée aux tranchées ou aucune autre, ça veut dire que les lois fondamentales du caractère universel des distances et des intervalles de temps n'est plus valable. En physique classique, si vous vous déplacez vers un objet qui arrive vers vous, les vitesses, votre vitesse et la vitesse de l'objet s'ajoutent. Si vous essayez de rattraper un objet qui file devant vous, vos deux vitesses se retranchent et la vitesse avec laquelle vous vous rapprochez de l'objet sera la différence des deux vitesses. Eh bien, ces lois de physique qui remontaient à l'époque de Galilée et de Newton ne sont plus valables si on admet qu'on ne peut pas ajouter ou retrancher quoi que ce soit à la vitesse de la lumière. Mmh. Et la seule façon d'admettre cela, c'est d'admettre que le temps, l'écoulement du temps dépend de l'observateur. Si deux observateurs se déplacent l'un par rapport à l'autre, eh bien, le temps ne s'écoulera pas au même rythme pour les deux observateurs. C'est le fameux paradoxe des jumeaux de Langevin, qui était un ami d'Einstein et qui a imaginé cette idée du jumeau qui part dans un voyage dans une fusée qui va à une vitesse s'approchant de la vitesse de la lumière, mais lorsqu'il va revenir sur Terre, s'il peut faire une boucle et revenir sur Terre, il retrouvera son jumeau beaucoup plus âgé que lui, parce que le temps sera écoulé plus lentement pour lui que pour le jumeau. C'est très difficile à concevoir intuitivement, mais c'est quelque chose qui est inéluctable à partir du moment où on admet que la vitesse de la lumière est une constante fondamentale, et on suit le raisonnement d'Einstein qui est lumineux, qui est un raisonnement basé sur des expériences de pensée très simples, mais qui conduisent à des résultats étonnants, résultats qui sont confirmés tous les jours par les expériences que l'on fait actuellement. En particulier, le GPS serait absolument inutilisable si on ne faisait pas les corrections liées au fait que le temps ne s'écoule pas à la même vitesse dans les horloges atomiques qui transportent les satellites du GPS. Toutes ces corrections sont essentielles pour donner à cet instrument la précision qu'il a. Et c'est une conséquence directe des théories de la relativité d'Einstein. Non seulement la théorie restreinte dont on parle maintenant, mais la théorie de la relativité générale, dont on dira peut-être quelques mots si on a le temps à la fin de l'émission.
Bien sûr, David Elbaz, là on peut peut-être revenir à cette théorie de la relativité restreinte et au boom, à la révolution que ça représente, tout ça grâce à la matière, qui est une révolution certes scientifique, mais aussi philosophique. Il y a beaucoup de débats, beaucoup de débats philosophiques qui naissent de cette théorie de la relativité restreinte. Je crois que Einstein est contesté d'une certaine façon par Bergson, qui est un peu le grand philosophe du début du XXe siècle sur cette notion de temps, de durée, d'écoulement du temps. Pourquoi est-ce que la lumière, la compréhension de la lumière, va nous faire complètement envisager la notion d'espace-temps d'une autre manière grâce à Einstein ?
Effectivement, là, finalement, la boucle est bouclée parce qu'on disait au début que dans l'Antiquité, on sentait qu'il y avait un lien entre la lumière et le temps, les cycles des étoiles, l'éternité. Et puis maintenant, effectivement, avec Einstein, on s'aperçoit que la lumière va complètement bouleverser notre vision du temps. Et effectivement, Bergson, jusqu'à la fin de sa vie, n'intégrera pas, disons, la révolution d'Einstein. Et je pense que je vais vous dire une chose. Et en fait, on raconte cette histoire selon laquelle un jour on a posé la question à Eddington. On lui a dit qu'il y avait que trois personnes qui comprenaient la relativité, et il s'est mis à réfléchir. Et la personne qui a posé la question dit vous êtes trop humble. Il dit non, c'est parce que je cherche qui est le troisième. Et donc à l'époque c'était quelque chose qu'on avait du mal à intégrer. Et maintenant vous allez dans n'importe quelle université et vous allez voir comment les gens intègrent la théorie de la relativité restreinte et générale, encore plus complexe, tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Ça veut dire qu'en fait, il y a une digestion qui a été faite culturellement par l'humanité de principes qui paraissaient complètement inacceptables dans le passé et qui sont maintenant complètement intégrés. Ça prouve qu'on a une capacité d'adaptation à ces idées-là qui est extraordinaire. Ce qu'a montré Einstein, c'est vrai que c'est complètement troublant, c'est qu'on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Pourquoi ? Parce que dans son article de juin 1905, il l'explique très simplement, il dit que l'énergie augmente avec la vitesse, mais elle tend vers l'infini lorsque la vitesse tend vers la vitesse de la lumière. Donc, comme on ne peut pas avoir une vitesse infinie, on ne pourra pas atteindre une vitesse qui dépasse la vitesse de la lumière. Et ça va être une véritable révolution. De là, va découler un ensemble de conséquences qui sont fondamentales pour l'astrophysique. Le fait que la vitesse de la lumière soit fixe et invariable et finie, fait qu'on peut utiliser l'univers comme un livre d'histoire. Ça, c'est extraordinaire. Si la vitesse de la lumière était infinie, je verrais instantanément le présent de l'univers, mais je n'aurais aucune idée de ce qui s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, le présent nous est à jamais inaccessible, et plus on regarde loin dans l'espace, plus on voit loin dans le temps. D'autre part, on utilise la courbure de l'espace-temps qui est une autre propriété qui a découlé de la théorie d'Einstein, cette fois de la relativité générale, pour déceler la présence de composants totalement invisibles dans l'univers, même dans les rayons X ou dans l'infrarouge, par exemple ce qu'on appelle la matière noire, qui va courber l'espace et dont on ne verra pas la manifestation autrement que par son influence sur la courbure de l'espace-temps. Et donc on utilise cette propriété qui vient d'Einstein pour aller encore plus loin dans notre exploration de composantes subtiles qui sont ici dans la pièce où je me situe. Si la matière noire existe, elle est là. Sauf que voilà. Et donc c'est voilà. Alors c'est vrai que ça a été difficile à accepter à l'époque, mais c'est aussi vrai qu'aujourd'hui j'ai le sentiment que c'est presque accepté par tout le monde, on a entendu parler, et on essaye de s'en sortir parce qu'on sait qu'il y a une limite à la théorie d'Einstein. On sait que l'énergie tend vers l'infini au centre d'un trou noir, par exemple, et donc on sait qu'il doit y avoir une façon d'aller au-delà de la théorie d'Einstein. Et pour l'instant, toutes les expériences qui ont été faites en astrophysique, en particulier sur la vitesse de propagation des ondes gravitationnelles dont on parlait tout à l'heure, toutes confortent Einstein. Il est d'une modernité extraordinaire. C'est vraiment troublant.
Serge Haroche, il nous reste une minute. Alors peut-être pour conclure, on s'est rendu compte, voilà, du parcours qu'avaient réalisé les chercheurs pour comprendre la lumière. Aujourd'hui, ce qui échappe à la lumière échappe à notre compréhension. Est-ce qu'on trouvera quand même un moyen d'aller justement vers ces invisibles, vers la matière noire, vers l'énergie noire? Est-ce qu'on trouvera un moyen, avec la lumière ou sans la lumière, de comprendre tout ça?
Je l'espère. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que la lumière est là, même quand on ne comprend pas, ne serait-ce que dans les expressions. Matière noire, ça veut dire une matière qui est invisible parce que elle n'interagit pas avec la lumière. Donc le mot noir est là. Quand on parle de trou noir, le mot noir se réfère au fait que même la lumière ne peut s'échapper de ces singularités de l'espace-temps dans lesquelles la concentration de matière était tellement forte que le champ de gravitation retient la lumière. Donc le concept de lumière sert même à évoquer le nom des choses que l'on ne comprend pas encore. Et je pense qu'on est à un tournant à la fin, à l'époque aujourd'hui. Comprendre ces propriétés cosmologiques, comprendre ce qu'est la matière noire, nous ramène peut-être à une situation analogue à celle qui existait à la fin du 19e siècle. On se demandait qu'est-ce qu'était l'éther, et finalement l'éther a disparu. On se demande plus, il n'y a pas d'éther. Alors peut-être que la matière noire est un concept que l'on imagine aujourd'hui parce qu'on pense que c'est la solution la plus rationnelle au problème qui se pose, mais peut-être que la solution que l'on va trouver sera complètement différente. Certains parlent d'une modification à une certaine échelle des lois de la relativité générale. Je crois que l'un des gros problèmes qui se pose, c'est que la relativité générale n'est pas compatible avec la physique quantique telle qu'on la connaît actuellement. Et c'est assez remarquable de penser que ces deux théories, qui sont toutes les deux nées au départ de pensées de travaux d'Einstein, sont plus de 100 ans après encore en une certaine tension l'une par rapport à l'autre.
Impossible à réunir. Et
l'un des gros problèmes, l'une des gros problèmes qui va se poser maintenant, c'est comment les réunir. Et pour ça, il faut des théoriciens extraordinaires, il faut de nouvelles idées, et il faut des observations également.
Voilà, il faut que quelqu'un voie la lumière. Merci beaucoup à tous les deux, Serge Haroche et David Elbaz, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure.
C'est quoi cette lumière juste au-dessus de moi? C'est quoi? C'est quoi cette lumière là par-dessus les toits? Par quel mystère tient-elle? Qui l'a mise là?
Lumière par Camille pour finir en musique cette émission. Un grand merci à toute l'équipe de Reka, Garance Prema-Agnolo, Mariam Ibrahim, Loïc Dutoit, Alexandra Delbo, Nicolas Berger à la réalisation accompagnée de Sam Bakiast. À la technique aujourd'hui, c'était Jordan Fuentes. Vous pouvez, comme chaque jour, réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans le grand bain de Reka. Et d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir.